Fichier 1.
Les yeux de son maître, numéro 141, mai 2024.
Revue de la Fédération française des associations de chiens guides d'aveugles. La FFAC, créée en 1972, est une association à but non lucratif, reconnue d'utilité publique en 1981. Fédération française des associations des chiens guides d'aveugles, 71 rue de Bagnolet, 75 020, Paris. Téléphone 01 44 64 89 89. Site internet chienguide-toutcollé-au-pluriel.fr. Adresse email fédération@chienguide-toutcollé-au-pluriel.fr.
Président Paul Charles, directeur de la publication Paul Charles.
Comité de rédaction, Salia Benaziz, Alexandre Catelin, Mérine Cusset, Lucie Lance-Marie, Anne Viau.
Le chien guide est remis gratuitement.
Illustration. Sur la couverture de votre magazine.
Photo d'une éducatrice de l'association de Provence-Côte d'Azur-Corse marchant avec un chien au harnais le long d'une route de campagne.
Fichier 2.
Sommaire.
Fichier 3.
Le mot du président.
Fichier 4.
Actualité. Tout le monde veut prendre sa place.
Des célébrations autour des chiens guides. Retour sur la journée internationale du chien guide 2024.
Fichier 5.
Histoire de vie. Dorothy Eustice, une femme d'affaires pour les chiens guides.
Fichier 6.
Dossier. Le mouvement chien guide international.
Fichier 7.
Dossier. Des Français engagés à l'international.
Fichier 8.
Rencontre. Les chiens guides au Portugal.
Fichier 9.
Pour aller plus loin, Jeux de Paris 2024, cap sur les parasports.
Fichier 10.
Les chiens guides en région.
Fichier 11.
La FFAC et vous.
Fichier 12.
Mouvement des chiens guides d'aveugles. Croisez générosité et solidarité en léguant une partie de votre patrimoine.
Fichier 3.
Éditorial.
Le mot du président Paul Charles, président de la Fédération française des associations de chiens guides d'aveugles, FFAC. Pour cette deuxième revue de l'année, je vous propose un voyage à la découverte des chiens guides dans le monde. Des liens étroits se sont créés avec les fédérations européennes et internationales en relation avec notre réseau fédéral. Tous unis, nous formons une grande chaîne d'acteurs engagés en faveur des personnes déficientes visuelles et de leurs futurs compagnons. Enrichissez-vous sur l'histoire du chien guide, ses premières apparitions dans le quotidien de nombreuses personnes et les évolutions apparues sur plusieurs décennies. Cette découverte générale vous guidera ensuite vers des rencontres avec deux de nos membres à la Fédération internationale du chien guide et leur rôle en son sein. Au travers d'une interview avec nos amis portugais, observons combien les valeurs d'entraide ont été fructueuses pour développer les activités et les chiens guides dans leur pays. Nous allons vivre une année marquée par la tenue des Jeux Olympiques et Paralympiques cet été et nous ne pouvons pas ne pas nous y intéresser. Un échange avec la délégation interministérielle aux Jeux Olympiques et Paralympiques, ainsi qu'une interview de Marie-Amélie Le Fur, présidente du Comité Paralympique et Sportif Français, nous ont donné tous les rouages sur l'organisation et surtout l'apport et l'intérêt des Jeux Paralympiques pour les personnes en situation de handicap en France. Enfin, notre revue étant également le miroir de notre mouvement, nous vous présentons dans ce numéro les actualités de nos associations d'Angers et de Limoges. Depuis 15 années de présidence de notre fédération, marquée par des joies communes, j'ai pu faire grandir notre cause au bénéfice de celles et ceux qui attendent avec impatience leur guide. Ce merveilleux signe d'une autonomie pleine, entière et sécurisée auquel chaque citoyen de notre République a droit. Avec un pincement au cœur, je vous informe que je ne renouvellerai pas mon mandat de président lors de la prochaine Assemblée Générale en juin. Cette réussite de notre mouvement, je vous la dois à vous, donateurs fidèles, depuis de nombreuses années, toujours présents à nos côtés, par votre engagement sans faille au financement de nos futurs chiens guides. Merci pour cet accompagnement que, j'en suis sûr, vous saurez faire perdurer encore de nombreuses années. Paul Charles, président de la FFAC.
Illustration. Portrait en médaillon de Paul Charles, souriant, portant un chiot labrador sable.
différentes vignettes de photos et pictogrammes illustrant les différents textes. Photo de la couverture du numéro. Logo de la Fédération internationale.
Fichier 4.
Actualité.
Tout le monde veut prendre sa place. Dimanche 28 avril 2024, la FFAC a eu l'honneur d'être invitée à l'émission de jeux télévisés « Tout le monde veut prendre sa place », animée par Jarry et diffusée sur la chaîne France 2. Lors de cet épisode, 6 candidats âgés de 13 à 17 ans, Ivy, Lina, Melora, Benjamin, Christopher et Luca, ont participé à plusieurs manches pour tenter d'atteindre la place en finale qui se jouait face à la championne en titre, Claudie. Jarry a pu animer l'émission avec la présence de Zoé Closure, gagnante du concours Eurovision de la chanson Junior 2023, et celle de Sylvie Duchâteau, accompagnée de son chien guide Shiva, qu'il a pu questionner sur les apports du chien guide. Chaque émission dominicale spéciale adolescent est jouée au profit d'une association caritative. Cet épisode du jeu a permis de récolter 2500 euros qui ont été remis en fin d'émission avec un chèque symbolique à Alexandre Catelin, directeur général de la FFAC. Visionnez l'épisode en rediffusion sur la plateforme de replay France.tv.
Illustration. Photo de groupe des participants à l'émission autour d'Alexandre Catelin, directeur général de la FFAC, portant un chèque géant de 2500 euros.
Des célébrations autour des chiens guides. Retour sur la Journée internationale du chien guide 2024. Dans de nombreux pays, la Journée internationale du chien guide est célébrée le dernier mercredi d'avril. Cette année, elle s'est tenue le mercredi 24 avril, rappelant ainsi l'importance du chien guide pour les personnes déficientes visuelles. En plus de leur permettre de retrouver autonomie, il est également vecteur d'inclusion sociale. À cette occasion, nous tenions à partager avec vous le nombre de chiens guides remis par nos associations fédérées en ce début d'année. 10 chiens guides ont déjà commencé à guider les pas de leur maîtresse ou maître. Cette journée est aussi l'occasion de remercier tous les maillons de notre chaîne de solidarité sans qui nous ne pourrions pas changer la vie de personnes aveugles ou malvoyantes. Des maîtresses et maîtres de chiens guides portent la flamme olympique. Les Jeux olympiques et paralympiques auront lieu respectivement du 26 juillet au 11 août et du 28 août au 8 septembre 2024. La flamme olympique débutera son parcours le 8 mai 2024 à Marseille et se poursuivra partout en France jusqu'à Saint-Denis pour l'ouverture des Jeux le 26 juillet. Pour l'occasion, des maîtresses et maîtres de chiens guides de nos associations fédérées auront l'opportunité de porter la flamme olympique de cette édition 2024.
Fichier 5.
Histoire de vie. Dorothy Eustice, une femme d'affaires pour les chiens guides. Si le mouvement chien guide français porte la marque de Paul Corteville, l'histoire des chiens guides au niveau mondial remonte à une pionnière américaine, Dorothy Harrison Eustice. Née en 1886 dans une famille très aisée de Philadelphie, elle grandit proche des animaux de la ferme familiale et reçoit l'éducation alors réservée aux filles. En 1906, elle épouse Walter Wood, un jeune homme fortuné de New York. De leur union naissent deux enfants, Walter, 1907-1993, et Harrison, 1914-1938, ainsi que la construction d'une ferme expérimentale basée sur l'impact de l'élevage sélectif sur la production laitière. En 1914, elle adopte Hans, un berger allemand. Lorsque son mari meurt subitement en 1915, la laissant veuve à 29 ans, elle part en Suisse, à Vevey, et y monte un élevage de bergers allemands basé sur la sélection génétique. Elle éduque et vend des chiens à l'armée, à la police ou encore à la douane. Située au sein même de la demeure Fortunate Fields de Joseph Hoffman, pianiste et beau-père de George Eustice, qu'elle épouse en 1923, l'élevage bénéficie de l'aide d'Eliot Jack Humphrey, éducateur et généticien autodidacte. En 1927, alors que Dorothy est sollicitée pour la rédaction d'un article sur ses travaux d'élevage, elle choisit d'écrire sur une école qui éduque des chiens guides située à Potsdam. Publié le 5 novembre 1927 dans le Saturday Evening Post, son article fait sensation auprès des déficients visuels américains. Elle reçoit des centaines de courriers de demandes de chiens guides. Elle accepte alors de faire éduquer un chien guide pour Maurice Frank, déficient visuel américain. En femme d'affaires avisée et consciente de vivre un moment historique, elle met en scène et fait filmer l'arrivée de Maurice Frank à Vevey, la formation du binôme, ainsi que son retour avec son premier chien guide à Nashville, Tennessee, le 11 juin 1928. Cela assurera alors la publicité de Dorothy aux États-Unis. Après son retour, Maurice Frank commence alors à monter un chenil, un programme d'éducation et à recruter des stagiaires. La première école américaine, The Seeing Eye, est fondée le 29 janvier 1929 à Nashville et déménage en 1931 à Morristown, dans le New Jersey. Des stages de remise de chiens à des maîtres aveugles sont organisés et des groupes de soutien assurent la collecte de fonds auprès du public. À la suite de cette expérience d'éducation de chien guide, Dorothy se consacra à nouveau à l'éducation de chiens pour la police italienne. Alors que les écoles de chiens guides allemandes ne résistent pas à la crise économique de 1929, la première école suisse, L'œil qui voit, ouvre à Lausanne en juin 1929 et restera en activité jusqu'en 1934. Pendant cette période, en 1931, deux éducateurs sont envoyés au Royaume-Uni pour aider à la création de structures de chiens guides. C'est le début d'une grande aventure internationale. Dorothy Eustis est active jusqu'en 1940 et décède 6 ans plus tard.
Le mouvement Chien Guide en France a commencé en 1952 lorsque Paul Corteville éduqua le premier chien guide français pour René Blin, un ami qui avait perdu la vue à l'âge de 8 ans en jouant avec de vieux explosifs. Né en 1912, Paul Corteville était le quatrième enfant d'une famille de 9 enfants et avait commencé à travailler à 11 ans dans une usine de filature. Profondément touché par les difficultés de son ami, ayant entendu parler des chiens guides en Allemagne et au Royaume-Uni et déjà éduqué des chiens pour la police, il décida d'éduquer des chiens guides pour les remettre à des personnes aveugles ou malvoyantes. Tout son temps libre et toutes les ressources de sa famille furent consacrées à cette aventure. En 1972, Albert Piessy, journaliste, publia un article dans Le Parisien Libéré sur Paul Corteville. C'est ainsi que des fonds issus de la générosité du public commencèrent à affluer et que la première école française a été construite.
Illustration. Photo en noir et blanc de Maurice Frank debout dans un salon, son berger allemand assis à ses pieds sous le regard attentif de Dorothy Eustis. Photo de Dorothy Eustis tenant 3 bergers allemands en laisse dans un parc bordé d'arbres. Photo de la page consacrée à l'article « The Seeing Eye » dans le Saturday Evening Post du 5 novembre 1927. Portrait de Paul Corteville tenant un berger allemand au harnais devant un bâtiment en briques rouges.
Fichier 6.
Dossier.
Le mouvement Chien Guide International. David Ménard coordonne depuis 2020 les activités de la Fédération internationale du chien guide, IGDF. Lui-même atteint de la maladie de Stargardt, une affection génétique de la rétine, il est depuis le Royaume-Uni au cœur des activités internationales du mouvement chien guide. Qu'en est-il du mouvement chien guide dans le monde ?
Eh bien, constat, le mouvement Chien Guide se porte bien. 3 nouvelles organisations issues du Canada, de Belgique et du Danemark ont rejoint l'IGDF en 2023. 4 déjà passeront leur première évaluation en 2024. 20 sont accompagnées par la commission développement, dont certaines sont dans des pays avec peu ou pas de services, à Singapour, proche de l'affiliation, en Amérique latine et en Europe de l'Est. Toutefois, même dans les pays où le mouvement est bien établi, des difficultés existent. Les barrières culturelles aux chiens guides, les conséquences de la pandémie de Covid-19, un manque d'éducateurs qualifiés et un recul des familles d'accueil. Les refus d'accès, y compris dans les pays où celui-ci est garanti par la loi, sont par ailleurs un obstacle aux demandes de chiens guides, notamment pour les renouvellements.
Comment le chien guide a-t-il essaimé à travers le monde ?
Le mouvement chien guide moderne est apparu en Allemagne durant la Première Guerre mondiale pour venir en aide aux vétérans qui avaient perdu la vue au combat. Plusieurs centres apparurent à travers le pays jusqu'à ce que le chaos économique des années 1920 ne mette un terme à l'initiative. L'idée toutefois fut reprise dans différents pays et fut développée aux États-Unis puis au Royaume-Uni durant les années 30 et 40. Les associations bien établies aidèrent au développement dans de nouveaux pays, exportant à la fois leurs modèles et leurs techniques d'éducation. Les structures de chiens guides du Royaume-Uni aidèrent à la création de leurs pairs au Canada ou en Espagne. La FFAC a participé quant à elle à la naissance de l'association du Portugal. Aujourd'hui, les associations en Espagne apportent à leur tour leur soutien à de nouvelles implantations en Uruguay ou au Brésil. Les chiens guides australiens, pour leur part, soutiennent activement des organisations en Chine et à Singapour. Ces origines historiques expliquent la prévalence des pays anglophones dans le mouvement chien guide international.
Pourquoi certains pays, voire continents, sont-ils sous-représentés ?
La création d'une école de chiens guides nécessite une source de revenus stable, des éducateurs qualifiés et un approvisionnement en chiens adapté au guidage. Beaucoup de pays dans le monde n'ont pas de revenus suffisants. Il existe également des barrières culturelles. Les chiens peuvent être perçus comme dangereux ou sales et une approche différente du handicap peut s'opposer à ce que la personne handicapée soit confiée à un chien. Par ailleurs, le travail avec un chien guide nécessite l'existence d'infrastructures publiques adaptées, trottoirs, passages piétons et marquages tactiles, car leur absence rendrait la circulation difficile et dangereuse. Les conditions climatiques, extrême froid ou chaleur, rendent également complexe et peu éthique l'usage de chiens guides. Enfin, dans de nombreux pays, la présence de chiens errants, voire d'autres espèces animales, susceptibles d'attaquer les chiens guides, perturbe fortement le travail des équipes, c'est-à-dire personnes déficientes visuelles et chiens guides.
Quelles sont les perspectives d'évolution dans les 5 prochaines années ?
Un nombre croissant d'associations membres de la Fédération internationale du chien guide diversifie l'éducation des chiens afin de pouvoir réorienter les potentiels chiens inadaptés au guidage vers d'autres types d'assistance. La priorité au bien-être animal lié à une sensibilisation du public et à de meilleures connaissances scientifiques sont des enjeux majeurs. L'éducation par la méthode de renforcement positif permet à la fois de développer des équipes plus efficaces et une communication plus porteuse auprès du public, surtout à l'ère des réseaux sociaux. La norme liée au bien-être du chien de l'IGDF devrait donc être renforcée dans les années à venir. Une approche plus centrée sur l'utilisateur, prenant davantage en compte ses besoins et lui apportant un soutien plus complet, est également à l'étude. Une collaboration plus étroite de l'IGDF avec Assistance Dogs International, regroupement des associations de chiens d'assistance sur le plan mondial, devrait également permettre de travailler sur des enjeux tels que le recrutement de bénévoles, le bien-être des chiens et les droits d'accès des équipes. L'IGDF souhaite également continuer à réviser et améliorer ses normes. Tout l'enjeu est de promouvoir des normes exigeantes en veillant à ce que les organisations émergentes ne soient pas exclues.
Illustration. Portrait en médaillon de David Ménard. Photo d'une éducatrice japonaise contournant un vélo avec un chien guide au harnais. En incrustation, photo du conseil d'administration de l'IGDF et d'une salle de la conférence 2023 de l'IGDF, les participants autour de tables rondes tournées vers les écrans géants.
Fichier 7.
Dossier.
Des Français engagés à l'international. Après 15 années d'accomplissement pour les chiens guides, Benjamin décide de mettre à profit ses expertises en s'engageant au sein de l'IGDF en tant qu'inspecteur norme. En cours de validation, il nous explique ses futures missions bénévoles internationales. Directeur technique de l'école de chiens guides de Paris, Benjamin Valenbois est depuis 15 ans très investi dans la cause du chien guide. C'est en septembre 2023 que son engagement bénévole au sein de la Fédération internationale du chien guide, IGDF, débute, devenant alors le premier assesseur norme français. L'IGDF compte actuellement 32 assesseurs dans le monde, dont le rôle est d'évaluer et de soutenir les associations déjà accréditées et membres de l'IGDF dans le respect des normes internationales. À ce jour, 97 associations de chiens guides réparties sur 35 pays sont membres. De nouvelles associations se créent de plus en plus en Amérique du Sud, où peu de structures étaient présentes jusqu'alors. Leur demande d'affiliation à l'IGDF est quant à elle contrôlée et validée par la commission développement de l'IGDF. Lors de ses débuts et afin de valider son statut d'assesseur, Benjamin sera accompagné d'un mentor pour ses deux premières évaluations qui se dérouleront en Suisse cet été au sein de deux associations accréditées. Mais concrètement, quels sont les points à contrôler ? Quelle plus-value un assesseur est-il en mesure d'apporter ?
Nous avons un rôle impartial d'observateur en tant qu'assesseur. Nous devons évaluer deux associations tous les deux ans, car l'accréditation pour rester membre de l'IGDF est à renouveler tous les 5 ans.
Le processus de contrôle demande du temps. En amont de la visite, l'assesseur a un travail administratif important à réaliser pour recueillir et vérifier les documents nécessaires à l'évaluation de l'association et également pour vérifier qu'elle répond bien à la législation en vigueur dans son pays. Ensuite, la visite dure 3 jours pendant lesquels une remise de chien guide doit avoir lieu. Lors de ces 3 jours, l'assesseur s'entretient avec toutes les parties prenantes, tels que la direction, les éducateurs, le vétérinaire de référence, les bénévoles, les maîtres de chiens guides, afin d'évaluer le respect des 7 normes et leurs spécifications, renouvelées d'ailleurs en 2024, imposées par l'IGDF. À la suite de sa visite, l'assesseur dispose de 30 jours pour rédiger son rapport sur l'application de chacune des normes internationales qu'il agrémente de recommandations. Il le transmet ensuite au comité d'accréditation qui se prononcera sur la reconduction ou non de l'accréditation de la structure évaluée. Norme 1. Administration, gestion des risques et poursuite des activités. Norme 2. Formation du personnel et développement professionnel. Norme 3. Service aux clients. Norme 4. Élevage et approvisionnement en chiens. Norme 5, éducation et comportement des chiens. Norme 6, santé et bien-être des chiens. Norme 7, locaux et chenils. Illustration. Portrait de Benjamin Valenbois en polo bleu aux couleurs de l'école de Paris, aux côtés d'un labrador noir portant le harnais. Retraité et engagé pour la cause du handicap visuel et celle des chiens guides, Antoine est également membre actif de l'IGDF. Il y tient un rôle primordial pour l'exécution des projets de celle-ci. Explication. Âgé de 67 ans, Antoine Bouissou vit à Toulouse et profite d'une retraite bien méritée depuis bientôt 10 ans, après une carrière dans l'aéronautique. Son frère, atteint du syndrome de Usher, surdit cécité, a eu son premier chien guide il y a une quinzaine d'années. Antoine voit son frère changer, regagner confiance en lui et en autonomie. C'est partant de ce constat qu'il décide, une fois inactif, de s'engager au sein de l'association Chien Guide Grand Sud-Ouest à Toulouse. Jusqu'en 2020, il est alors famille d'accueil et a consécutivement prééduqué 3 chiots, dont un a été réorienté pour s'occuper d'enfants autistes et 2 ont été remis à 2 malvoyantes toulousaines.
La proximité fait que je peux garder les chiens une semaine par an avec grand plaisir.
À ce jour, il est famille relais, ce qui colle mieux avec sa vie de couple. Sa femme et lui sont régulièrement en voyage. Grâce à son investissement bénévole, il est alors élu au conseil d'administration de l'association en tant que représentant des familles d'accueil. Il a pu s'occuper, entre autres choses, du développement des chiens à double compétence et c'est de là qu'a commencé son investissement au-delà des frontières françaises.
En menant ce dossier, on a eu des contacts avec des écoles anglaises, canadiennes. Je suis rentré dans l'international par ce biais.
En septembre 2022, il devient alors membre du conseil d'administration de l'IGDF auprès de 6 autres administrateurs répartis sur le globe.
Le président est canadien, puis il y a eu une américaine, un australien, un japonais, un anglais et un suisse. C'est amusant car les réunions, on les fait à 22h le soir en France, donc 5h du matin pour l'administrateur au Japon et midi pour celle aux États-Unis.
Le conseil d'administration se réunit ainsi une fois par mois en visioconférence. C'est l'occasion pour les administrateurs d'évoquer les différents projets sur les orientations de l'IGDF. Normes et standards, communication, audit et contrôle, innovation. Pour la fin de l'année 2024, un objectif est à atteindre, qu'une nouvelle version des standards d'éducation des chiens guides soit agréée avec la participation active d'un maximum d'écoles à travers 5 commissions.
Le rôle principal de l'IGDF étant en effet de créer des normes sur les meilleures pratiques dans le monde entier et de pousser les écoles de chiens guides à aller vers celles-ci.
De plus, tous les 2 ans, toutes les parties prenantes à l'IGDF se réunissent lors d'un congrès international où
il y a beaucoup à prendre, à y gagner. C'est un moment qui permet de rencontrer, discuter, faire des présentations sur des sujets importants. On est en train de choisir les thèmes et les propositions de présentation qui sont attendues pour cet été, pour le prochain congrès en 2026.
Illustration. Photo d'Antoine Bouissou tournée vers une mer azur. On distingue la côte le long de la ligne d'horizon.
Fichier 8.
Rencontre. Les chiens guides au Portugal. La formation au métier d'éducateur de chiens guides a fait naître une relation toute particulière entre l'Association portugaise de chiens guides d'aveugles, Associação Beira Agueira de Apoio ao Deficiente Visual, ABAADV, et la Fédération française des associations de chiens guides d'aveugles, FFAC, il y a plus de 25 ans.
nous avons rencontré Anna Filipa Paiva, directrice technique et vétérinaire généraliste de l'ABAADV, unique école de chiens guides du Portugal, à Mortágua. Œuvrant sur l'ensemble du territoire portugais grâce au dévouement d'une équipe de 13 membres actifs, ce sont en moyenne chaque année 16 chiens guides qui sont remis aux personnes aveugles ou malvoyantes par l'ABAADV. Depuis la création de l'association, plus de 260 chiens guides ont été remis à 180 aveugles ou malvoyants. Pendant longtemps, le Portugal était l'un des seuls pays européens dénués de structures dédiées aux chiens guides d'aveugles. Pour pallier cette situation, le père d'Anna, M. Paiva, aujourd'hui à la retraite, mais qui a travaillé pendant plus de 50 ans avec des personnes aveugles ou malvoyantes, en école spécialisée pour déficients visuels ou en milieu ordinaire, a eu l'idée en 1995 de créer le premier centre d'éducation de chiens guides. Il a suivi une formation à locomotion en 1971 à Paris, dispensée par la American Foundation for the Overseas Blind, en collaboration avec l'Institut des jeunes aveugles et le centre de Marly-le-Roi. En 1995, l'histoire des chiens guides au Portugal commence alors avec la candidature au projet européen Horizon du Fonds européen de développement régional, FEDER, proposé par l'école professionnelle Beira Aguiera dans le but d'apporter plus d'autonomie aux personnes aveugles dans le pays. Le projet a impliqué différents acteurs européens pour bénéficier de soutien financier, matériel et physique. L'association Beira Aguiera de Apoio ao Deficiente Visual a ainsi vu le jour le 30 décembre 1999 lorsque le projet s'est terminé. Partie prenante, la FFAC a contribué à la création de l'ABAADV en formant les deux premiers éducateurs de chiens guides du Portugal de 1996 à 1999.
La relation que l'on entretient avec la FFAC est similaire à la relation d'un parent et son enfant. La FFAC est comme un parent pour nous. On peut compter sur elle, on se sent protégé et elle nous donne la sensation d'être un de leurs membres.
Nous confie Anna. Depuis, la FFAC continue de former des éducateurs portugais au métier d'éducateur de chiens guides et de remettre gratuitement à l'association des chiots et chiens reproducteurs issus de son réseau des élevages français, le REF.
Le soutien que nous apporte la FFAC nous aide à progresser et à faire avancer l'éducation de chiens guides au Portugal.
Aujourd'hui, grâce au travail fourni par l'ABAADV, la cause du chien guide est de plus en plus reconnue au Portugal et auprès d'entreprises cherchant à s'engager et à soutenir le tissu associatif dans leur pays. La mission principale d'ABAADV est de remettre des chiens guides aux aveugles. À côté de cela, l'association a commencé à diversifier son activité vers l'éducation et la réorientation de chiens n'ayant pas pu devenir chiens guides à destination de personnes âgées isolées, vivant en maison de retraite ou à domicile et d'enfants ayant un ou des handicaps autres que la déficience visuelle.
Illustration. Logo des 25 ans de l'ABAADV. Photo en pied d'Augusto Hortas et son chien guide Camila au harnais, debout sous un arbre. Il s'agissait de la première remise de l'association le 16 janvier 1999. Photo plus récente de Carlos tenant au harnais un labrador sable, Darius, sur un tapis de feuilles mortes dans un cadre forestier.
Fichier 9.
Pour aller plus loin. Jeux de Paris 2024. Cap sur les parasports. À l'approche des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024, nous avons pu en savoir davantage quant à l'accessibilité, à la vision et aux volontés du gouvernement pour faire des Jeux Paralympiques un tremplin pour le handicap en France. Rencontre avec la délégation interministérielle aux Jeux Olympiques et Paralympiques. À quelques mois des Jeux Paralympiques de Paris 2024, quels ont été les chantiers pour l'accessibilité des lieux et des transports? Quels moyens sont ou seront notamment déployés pour l'accueil des publics en situation de handicap?
Les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 sont un défi et une opportunité en matière d'accessibilité. En avril 2023, lors de la Conférence nationale du handicap, le président de la République a annoncé la mobilisation sans précédent de 1,5 milliard d'euros sur 5 ans pour améliorer l'accessibilité. Cette enveloppe se décline avec notamment 430 millions d'euros pour la mise en accessibilité des transports, plus d'un milliard d'euros pour la mise en accessibilité des bâtiments et enfin 60 millions pour rattraper le déficit d'accessibilité des démarches et sites internet publics. Dans le cadre des Jeux de Paris 2024, l'enjeu est donc d'être à la hauteur de l'accueil de l'ensemble des visiteurs en situation de handicap, ainsi que des parasportifs, mais aussi de laisser un héritage durable à la société. L'ensemble des parties prenantes est mobilisée pour offrir aux spectateurs en situation de handicap l'expérience la plus réussie et la plus optimale possible. Les organisateurs, les pouvoirs publics, les acteurs des transports, les acteurs du tourisme et de la restauration, etc. Des personnes en situation de handicap et leurs représentants sont par ailleurs directement impliqués dans le déploiement de solutions adaptées. Les enjeux quant au transport et à la mobilité ont énormément été travaillés. Boucles magnétiques au guichet, annonces visuelles et sonores, interphones d'appel nouvelle génération, accessibilité des lignes pour les usagers en fauteuil roulant, formation d'agents pour l'accueil des personnes en situation de handicap, développement de taxis verts pour les usagers en fauteuil roulant, ainsi que de navettes, cheminement piéton plus accessible, reprise des chaussées, balises sonores, repères podotactiles, zones de dépose et reprise pour les véhicules de transport de personnes en situation de handicap, place de parking dédiée aux usagers en fauteuil roulant, file d'accueil dédiée, tout comme les lieux de compétition, d'entraînement et de rassemblement qui ont été conçus ou rénovés pour être les plus accessibles possibles, notamment grâce à un diagnostic pour s'assurer de la qualité de l'expérience proposée aux spectateurs en situation de handicap.
Quels sont, selon vous, les apports de ces Jeux paralympiques pour le sujet du handicap en France ?
Les Jeux paralympiques seront une formidable fenêtre de visibilité sur les parasports et viendront renforcer l'inclusion des personnes en situation de handicap au sein de notre société par le changement de regard qu'ils permettront. L'union des deux équipes, olympique et paralympique, au sein de la même équipe de France unifiée, contribue d'ailleurs à cette dimension inclusive de la compétition que l'on souhaite être regardée comme unique et qui suscitera le même enthousiasme en juillet comme en août. La cérémonie d'ouverture des Jeux paralympiques se fera hors du stade, comme la cérémonie du 26 juillet. L'ensemble des lieux de compétition des parasports seront les mêmes lieux symboliques que les épreuves olympiques. Grand Palais, Stade de France, Champ de Mars, etc. Les temps forts qui rythment par ailleurs le pays depuis avril incluent pleinement la dimension paralympique, la semaine olympique et paralympique dans les écoles qui s'est tenue début avril, le J-100 des Jeux paralympiques le 19 mai prochain ou encore le relais de la flamme paralympique avec un parcours exceptionnel qui débutera sous la Manche. La journée paralympique qui a eu lieu ces dernières années le 8 octobre a réuni des dizaines de milliers de spectateurs qui ont pu s'initier au parasport en présence de centaines d'athlètes. Ces moments de partage contribuent également à changer la façon dont est compris le handicap au sein de notre société.
Avec ces Jeux paralympiques à Paris cet été, quel message souhaitez-vous véhiculer pour l'image de la France à travers le monde ?
L'ambition de l'État est de faire des Jeux paralympiques un tournant pour la manière dont notre société perçoit les personnes en situation de handicap. Les Jeux olympiques et les Jeux paralympiques sont les deux facettes d'un même projet. Ils sont portés avec la même exigence organisationnelle et la même ambition de singularité. L'État contribue au financement des Jeux paralympiques. Tout comme pour les Jeux olympiques, l'ambition est de livrer un événement iconique à travers une cérémonie d'ouverture hors stade, 65 000 personnes sur la place de la Concorde, et des sites de compétition iconiques, par exemple la Tour Eiffel pour le cécifoot, le Grand Palais pour l'escrime fauteuil et le para-taekwondo. L'État a également largement accru son soutien à la haute performance paralympique en doublant les crédits alloués depuis 2017.
Quel héritage pour le handicap ?
L'héritage de ces Jeux ne repose pas uniquement sur une amélioration significative de l'accessibilité des transports en commun en Île-de-France, ainsi que sur l'augmentation du nombre de taxis verts accessibles aux personnes en fauteuil roulant. Au-delà des transports, l'accueil des Jeux a également permis d'accélérer la mise en accessibilité de nos villes et de notre offre touristique. L'accueil de la plus grande fête mondiale des parasports est aussi un levier pour promouvoir une activité physique et sportive inclusive, car près de la moitié des personnes en situation de handicap, 48%, ne pratiquent pas de sport.
Marie-Amélie Le Fur, présidente depuis 2018 du Comité paralympique et sportif français, CPSF, partage avec nous ses avis sur la question des Jeux paralympiques cette année en France. Alors que depuis 2022, le 8 octobre est une journée paralympique visant à changer le regard des Français sur la situation de handicap, mais aussi à dire aux personnes en situation de handicap « le sport, c'est fait pour vous, venez l'essayer », trois marqueurs principaux détermineront la réussite de ces Jeux paralympiques de Paris 2024, selon Marie-Amélie. L'impact sur le sport dans le quotidien des personnes handicapées. Il y a un enjeu d'agir sur la demande et sur l'offre pour avoir quelque chose de cohérent qui se développe sur l'ensemble du territoire. C'est une responsabilité collective. l'enjeu des performances des parasportifs, car c'est avant tout une compétition de haut niveau et nous avons pour objectif de doubler les médailles d'or par rapport aux Jeux de Tokyo. Enfin, porter les Jeux comme un accélérateur social, au-delà de la pratique sportive en tant que telle, avec le développement de clubs inclusifs, l'accessibilité universelle avec les normes d'accessibilité et de nouveaux équipements et constructions sportives et l'accessibilité des transports et des lieux publics. Pour cette nouvelle édition, même s'il n'est pas simple de trouver des athlètes aveugles de haut niveau, une proportion conséquente d'athlètes déficients visuels sera présente, d'autant plus que le handicap visuel est représenté dans de nombreux sports tels que l'athlétisme, la natation ou encore le cyclisme, mais aussi avec le cécifoot, sport dédié au handicap visuel. Mais la route des sélections est plus devant nous que derrière nous, nous affirme Marie-Amélie en mars dernier. Illustration. Pictogramme des handisports. Portrait de Marie-Amélie Le Fur souriante.
Fichier 10.
Les chiens guides en région. Les chiens guides d'aveugles de l'Ouest. Cette année, l'association Les chiens guides d'aveugles de l'Ouest a participé une fois de plus à l'événement Made in Angers, devenu, au fil de ses éditions, un événement de référence en Anjou, avec comme objectif de faire découvrir au grand public les entreprises du territoire en organisant des visites guidées. En 2024, plus de 180 structures ont décidé d'ouvrir leurs portes pendant près d'un mois. L'association a organisé des visites pendant 2 semaines, du 26 février au 7 mars, et ainsi fait découvrir les moindres recoins de son centre d'éducation de chiens guides d'Angers. Éducateurs, moniteurs, animaliers, familles d'accueil bénévoles et élèves chiens guides adorés, tous étaient sur le pont pour accueillir les participants dans les meilleures conditions.
Illustration. Logo des chiens guides d'aveugles de l'Ouest. Photo des visiteurs se dirigeant vers la piste d'entraînement derrière des petits bâtiments. Les chiens guides en région. Chiens guides d'aveugles du Centre-Ouest. Le dimanche 17 mars, plus de 150 personnes se sont réunies à Fléac, en Charente, en faveur de l'association des chiens guides d'aveugles du Centre-Ouest. Au programme, 2 parcours de randonnée de 5 et 8 km à travers cette commune de Charente. À l'initiative de cet événement, le Lions Club d'Angoulême Marguerite, présidé par Dan Laroche, association très engagée envers les structures qui œuvrent pour les personnes en situation de déficience visuelle. Accueillis au sein du château de Fléac, qui a été mis à disposition par Madame le maire pour l'occasion, une délégation de 9 personnes et de 5 chiens venus de Limoges a pris part aux 2 parcours aux côtés des membres du Lions et des marcheurs. Parmi eux, Sylvie Morlieras, présidente de l'association, qui était accompagnée de Payette ainsi que de 2 familles d'accueil et 2 personnes déficientes visuelles. Chaque participant a versé 3 ou 5 euros selon qu'il soit ou non membre d'une organisation de randonnée associée et une tombola a également été organisée. L'ensemble des recettes de cette marche solidaire a été reversé à l'association Chiens Guides d'Aveugles du Centre-Ouest. C'était une belle matinée qui a permis à l'association de se faire connaître un peu mieux. Illustration. Logo des Chiens Guides d'Aveugles du Centre-Ouest. Photo d'un groupe de familles d'accueil accompagnées de leurs élèves à 4 pattes en randonnée sur une route de campagne. On distingue des vignes en arrière-plan.
Fichier 11.
La FFAC et vous.
Tous unis dans la Fédération française des associations de chiens guides d'aveugles.
Le mot des donateurs.
Bonjour mesdames. J'ai eu la chance d'avoir une chienne croisée Labrador Golden, née le 3 juillet 2015. Lota est adorable et s'entend très bien avec mes chats. Non loin de chez moi, j'ai la chance de profiter de longues balades avec elle sur le bord de mer. À 80 ans bientôt, j'apprécie la compagnie de cette chienne qui m'accompagne lors de nos balades sur la grève. Je suis reconnaissante envers les chiens guides d'avoir accepté que je devienne famille de retraite. Quand son ancien maître vient la voir, il est content de la savoir en bonne maison. Et c'est pour cela que j'ai plaisir à vous apporter mon soutien financier. Cependant, comment faire parvenir mes reçus fiscaux à l'administration fiscale et combien de temps dois-je les conserver? Merci de votre réponse et de tout ce que vous faites pour l'éducation des chiens.
Chère madame, Il n'y a pas de règle explicite pour faire parvenir votre reçu fiscal à l'administration fiscale. Vous pouvez leur transmettre soit par courrier ou par courriel. Cependant, l'envoi des reçus par courriel présente des avantages communs. Vous le retrouvez plus facilement dans votre messagerie au moment où vous déclarez votre don pour obtenir une réduction d'impôt. Vous avez moins de risques de le perdre qu'un papier. C'est moins cher et plus rapide que l'impression et l'envoi par voie postale. Le justificatif du don déclaré aux impôts doit être conservé pendant 3 ans au minimum et peut être fourni dans les pièces justificatives de la déclaration de revenus de l'année concernée lorsqu'il est demandé en tant que preuve du don. Un grand merci pour vos encouragements et votre soutien. MAMSEC, chargée des relations donateurs.
Pour plus d'informations, contactez le service relations donateurs, MAMSEC au téléphone 01 44 64 89 89 ou Alice Larivière 01 44 64 88 61.
Les chiens guides d'aveugles, Fédération française des associations de chiens guides d'aveugles, FFAC. 71 rue de Bagnolet, 75 020 Paris. Téléphone 01 44 64 89 89. www.chienguide.fr. Email fédération@chienguide.fr. Association sans but lucratif, loi 1901. CCP La Source 33706-50 R, reconnu d'utilité publique par décret du 26-08-81. Nous appliquons la réglementation sur la protection des données, RGPD. À cette occasion, les règles relatives à vos données personnelles sont en vigueur. Pouvoir consulter à tout moment les données en notre possession vous concernant, fournir des informations sur les données que nous recueillons et la façon dont nous les utilisons. La FFAC a toujours apporté une attention particulière à la sécurisation et l'utilisation des données. Sachez que vos droits, notamment de suppression des données vous concernant, sont applicables.
La FFAC et les associations fédérées ne font ni démarchage téléphonique ni vente à domicile, calendrier, carte de parrainage, dons, etc. L'UNADEV ne fait pas partie de la FFAC et n'est pas une association de chiens guides fédérés.
Illustration. Pictogramme de 2 têtes côte à côte avec des casques. Logo de la FFAC.
Fichier 12.
Mouvement des chiens guides d'aveugles. Croisez générosité et solidarité en léguant une partie de votre patrimoine. Depuis plus de 50 ans, nos associations mettent tout en œuvre pour éduquer des chiens guides et les remettre gratuitement à des personnes aveugles ou malvoyantes. C'est grâce à votre générosité que nous rendons possibles ces belles rencontres qui redonnent mobilité et autonomie aux personnes déficientes visuelles dans leur vie quotidienne. Grâce à votre legs, soutenez l'éducation et la remise de chiens guides. Pour obtenir des renseignements sur les legs, assurance vie et donations, demandez en toute confidentialité notre brochure gratuite ou contactez Sophie Bazin au 01 44 64 80 27 ou par mail à s.bazin@chienguide.fr ou rendez-vous sur www.chienguideleg.fr.
Illustration. Photo de la campagne Leg montrant sur un fond boisé une vieille dame souriante, son petit chien sur les genoux, assise sur un banc à côté d'un jeune homme tourné vers elle et caressant son chien guide assis à ses côtés. Légende, croisez générosité et solidarité en léguant une partie de votre patrimoine. Carte de France avec les zones d'influence des associations fédérées habilitées à collecter des legs. Chaque région comporte le logo de l'association dont elle dépend.
Fichier 13.
C'était Les yeux de son maître, numéro 141, mai 2024. Enregistré par l'association Passeurs de sons.